10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Johan Usaï, Aurélie Herbemont.
Bonjour à tous, notre invité ce matin, Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
L'Europe est votre terrain de jeu, passe sanitaire, vaccin, relance, on va parler de tout ça. Alors que l'Union européenne n'a pas toujours montré son meilleur visage depuis le début de la crise du Covid, être résolument pro-européen, c'est la marque de fabrique du macronisme. Mais dans ce contexte, est-ce que ce sera une chance pour le chef de l'État de présider l'Union européenne à partir de janvier prochain, en pleine campagne présidentielle, avec une Marine Le Pen très haut dans les sondages? On parlera aussi des régionales, où la Macronie a décidé de semer la zizanie, on peut le dire, à défaut de pouvoir conquérir des régions. À mes côtés pour vous interroger ce matin, Cécile Cornudet des Échos, Johan Usaï de CNews. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
On va d'abord évoquer le conflit au Proche-Orient, Clément Beaune, et ses répercussions en France. Et c'est Johan Usaï qui vous pose la première question.
Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Des pro-palestiniens ont manifesté à Paris hier malgré l'interdiction. Il y a eu des incidents. En revanche, les manifestations là où elles étaient autorisées se sont plutôt bien déroulées. La question est donc la suivante. Est-ce que le gouvernement a fait preuve d'un excès de prudence en interdisant cette manifestation parisienne?
Vous l'avez dit, il y a une escalade dramatique et meurtrière au Proche-Orient, et on le sait, quand malheureusement ces épisodes se reproduisent, cela peut être d'une certaine façon importé sur le territoire national dans des manifestations. Et donc le ministre de l'Intérieur avait demandé au préfet d'être très vigilant. Je crois qu'il a parfaitement bien fait. Il y a eu certains cas des interdictions de manifester. Et,
Avec des incidents, des tensions.
Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas empêcher absolument tout rassemblement, mais ils ont donné lieu à des interpellations, ils ont donné lieu à une intervention des forces de l'ordre, dont je veux saluer le discernement et le courage face à des épisodes de tension aussi forts. Cela montre bien que, justement, on a bien fait d'éviter d'autoriser systématiquement ces manifestations, parce que ça peut avoir des débordements très importants.
Là, on voit précisément que cette interdiction, évidemment, a fait polémique, mais est-ce que ça n'est pas contre-productif?
Non, je ne crois pas que ce soit contre-productif.
On peut se poser la question, en tout cas.
Non, on peut toujours raisonner à l'envers en se disant, si on avait autorisé, ça aurait été plus calme. Je ne crois pas. On a vu
Les Insoumis disaient que vous réussissez d'exacerber les tensions en interdisant.
C'est une façon de ne pas assumer des responsabilités politiques quand on appelle à des manifestations que, pas eux-mêmes, enfin, il y a des rassemblements qui donnent lieu à des débordements, c'est pas la faute des forces de l'ordre, pardon. Et on sait ce qui s'est passé dans des cas précédents, en 2014 notamment, quand il y avait eu un épisode déjà très dur au Proche-Orient, très meurtrier, il y avait eu des manifestations, plus souvent autorisées, qui avaient donné lieu aussi à des débordements. Donc il n'y a pas, malheureusement, de remède parfait dans cette matière, mais je crois que cet appel à la vigilance et cette volonté d'interdire certains rassemblements était nécessaire dans le moment que nous vivons. Et j'appelle chacun, on peut avoir des opinions politiques, mais à ne pas souffler sur les braises en ayant une vision manichéenne des choses dans ce conflit.
Dans les rues de Paris, on a entendu des Allahu Akbar. Comment on peut accepter ça?
On ne peut pas l'accepter. Il y a eu un certain nombre d'interpellations, d'ailleurs, une cinquantaine à Paris. Et donc, c'est par cette vigilance. Moi, je ne veux pas tout mélanger. Je ne dis pas que quand on est sensible à la cause palestinienne, on est forcément en soutien du terrorisme ou d'un islamisme radical. Il ne faut pas tout mélanger. Mais dans ces manifestations, il y a des éléments perturbateurs, violents, peut-être qui ont des messages à caractère haineux, voire terroriste, qui s'infiltrent. Et donc, c'est aussi pour ça que, au cas par cas, les préfets peuvent interdire ces rassemblements. Et quand ils se déroulent malgré tout, que l'on procède sans aucune faiblesse à ces interpellations.
Clément Beaune, au Proche-Orient, on est à plus de 157 morts et des centaines de blessés. Alors, des morts essentiellement côté palestinien. Hier, l'armée israélienne a détruit une tour qui abritait notamment la chaîne Qatari Al Jazeera et l'agence de presse américaine AP. Emmanuel Macron, ces jours-ci, a appelé à la désescalade. En vain, quel message va porter la France, puisqu'il va y avoir une réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui sur ce sujet?
D'abord, pas en vain, parce que malheureusement, ces conflits, vous le savez, ne se résolvent pas à coups de baguette magique. Le président est engagé, Jean-Yves Le Drian aussi, depuis le début de cette semaine, en appelant un certain nombre d'homologues, de leaders politiques de la région. Je pense par exemple au président égyptien, au gouvernement jordanien, pour essayer de parler à toutes les parties et d'apaiser. C'est exactement ce message de médiation et de désescalade que nous porterons au Conseil de sécurité. Le président américain, qui ne voulait pas vraiment s'impliquer dans le conflit du Proche-Orient, y est obligé aujourd'hui, a dépêché un émissaire cette nuit. Les États-Unis porteront aussi ce message de médiation, d'apaisement, de désescalade au Conseil de sécurité. Tant mieux, on a besoin de nos efforts coordonnés. Et puis, je crois qu'il faut éviter deux choses. D'abord, de penser qu'on ne peut rien faire. Cet appel à la médiation, cette offensive diplomatique est nécessaire. Elle n'est pas magique, elle est nécessaire et la France est en première ligne. Et puis, il faut éviter aussi, dans le débat public, on en parle avec les manifestations, toute simplification excessive. Il ne faut pas confondre la critique qu'on peut avoir, avant même cet épisode, à l'égard de la politique du gouvernement israélien. La France l'a eu parfois sur la colonisation ou d'autres sujets, et récuser un droit d'Israël à se défendre. Et puis ensuite, bien sûr, dans la défense, il faut un droit qui s'applique dans le respect des règles internationales, avec proportion, et nous ferons toute la transparence sur ce qui s'est passé hier, par exemple, sur le bombardement de la
Tour. Est-ce que c'est proportionné, ce qui s'est passé hier ?
N'est-ce pas à moi de juger chaque épisode ? Parce que, par exemple, le bombardement de la Tour, là aussi, évitons tout jugement hâtif. C'est très préoccupant, nous l'avons dit, les États-Unis l'ont dit, mais il est vrai aussi, on le sait, je ne sais pas pour ce cas-là, mais dans le passé, que le Hamas, parfois, utilise stratégiquement des lieux qui accueillent des médias, des civils, pour accueillir aussi un certain nombre de ses leaders. Et donc, je crois qu'il faut toujours éviter un jugement hâtif dans ce sujet et surtout mettre tout notre capital politique, toute notre offensive sur cette médiation. Et la France est à la manœuvre depuis le début.
Vous dites que la France est à la manœuvre en première ligne, mais où est la France précisément ? Vous avez vous-même été obligé d'appeler les États-Unis à intervenir, qui étaient restés en retrait jusqu'ici. C'est bien la preuve que la France et l'Europe sont complètement absentes de la gestion de cette crise.
Mais pas complètement absentes, mais... Moi, je ne vais pas faire une sorte de course à l'échalote ou d'orgueil mal placé dans cette affaire. La France et l'Europe, par leur contact avec l'Égypte, avec la Jordanie, essayent de trouver une voie d'apaisement. On le fera au Conseil de sécurité, dont nous sommes membres permanents cet après-midi. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout régler, évidemment, tout seul. Et j'ai appelé, je l'assume, à ce que les États-Unis s'impliquent, parce qu'on a besoin aussi, ce n'est pas un scoop, que les Américains, par leur contact notamment avec le gouvernement israélien, nous aident dans cette offensive diplomatique pour essayer de passer ces messages d'apaisement. On n'est pas trop des États-Unis, de l'Europe, de la France en particulier, dans ce travail de médiation. Et nous encourageons aussi les efforts régionaux, je pense à ceux de l'Égypte. Donc il ne s'agit pas de dire que quelqu'un, malheureusement, a la solution toute faite ou tout seul. Ça n'est pas comme ça. Et je me réjouis, d'une certaine façon, que les Américains prennent aussi le taureau par les cornes et travaillent avec nous.
Clément Beaune, on va parler maintenant du déconfinement en France qui va avoir une nouvelle étape la semaine prochaine. La France a franchi hier le cap des 20 millions de vaccinés et le Premier ministre a salué cette nouvelle étape.
C'est évidemment un moment très important pour l'ensemble du pays parce que cela ouvre, cela conforte les perspectives de sortie de crise qui sont également confortés par l'évolution des données de l'épidémie. Vous le savez, celle-ci régresse.
Cécile Cornudet.
Oui, mercredi 19 mai, mercredi prochain, c'est le début du déconfinement, la réouverture des terrasses, des lieux culturels, le couvre-feu qui est prolongé à 21h. Vous faites quoi mercredi soir ?
Je pense que dès mercredi matin, je prendrai un café en terrasse.
Il pleut,
mais je crois que, comme beaucoup de Français... J'aurais envie, même s'il pleut à Paris, et je crois dans pas mal de régions de France, d'avoir cette respiration aussi. Parce qu'on a vu que ce mode de vie, des cafés, des restaurants, de la vie sociale, évidemment, nous manque. Bon. Et je crois que malgré les intempéries, nous aurons tous envie de ce moment de joie. D'abord, il faut le dire aussi, ce qui permet cette réouverture, c'est la vaccination qui accélère. On a dépassé le cap des 20 millions, c'était notre objectif. On avait fait mieux que l'objectif de 10 millions en mi-avril, et nous avons l'objectif de 30 millions en juin.
Mais un objectif qui avait été revu à la baisse par rapport à ce qui avait été annoncé en décembre dernier quand même.
Les objectifs 10, 20, 30, ce sont ceux du gouvernement depuis qu'on a des objectifs chiffrés, c'est-à-dire depuis le début du mois de janvier. Il faut être honnête là-dessus. Nous avons toujours dit que nous visions aussi la vaccination de tous ceux qui le veulent dans la population adulte à l'été, j'espère au début de l'été, et je crois que nous le tiendrons, nous pouvons le faire. Mais c'est aussi le fruit de nos efforts, des efforts des Français, des efforts collectifs, des souffrances. Je pense aux jeunes, je pense aux étudiants en particulier. Et par ces efforts, par ce sérieux, parce qu'on ne le dit pas assez, mais on nous reproche parfois de ne pas respecter les règles, de jouer avec les règles. Les Français ont été extrêmement sérieux et responsables. Et cet effort-là nous permet, comme dans beaucoup de pays européens, d'avoir cette ouverture, cette respiration. Il faut rester prudent. On le fait par étapes. On commence le 19 mai. On en a besoin et on en a envie.
Alors Boris Johnson, lui, alerte sur la grande contagiosité du variant indien qui pourrait remettre en cause la feuille de route du déconfinement en Grande-Bretagne, précisément. Est-ce que vous regardez ce qui se passe là-bas et est-ce que ce variant indien vous inquiète plus que les autres, peut-être ?
On regarde évidemment avec une très grande attention ce qui se passe chez nos voisins au Royaume-Uni. Je vous rappelle que dès le mois de décembre, on avait eu un autre variant qu'on appelle le variant du Kent ou britannique qui nous avait beaucoup inquiétés à juste titre. On avait fermé nos frontières ou posé des restrictions. On fait pareil avec le variant indien. Aujourd'hui, on sait qu'il est contagieux. On n'a pas d'informations plus alarmantes que celle-là sur sa mortalité, par exemple. Et il semble aussi que les vaccins permettent de lutter contre ce virus-là, ce variant-là. Mais on est très vigilant, et c'est d'ailleurs pour ça, indépendamment de la situation du Royaume-Uni, que pour un certain nombre de pays, à commencer par l'Inde, depuis 3 semaines, nous mettons en place des systèmes de restriction aux frontières, de quasi-fermeture totale, renforcée, avec des quarantaines renforcées.
Qui ont vocation à durer longtemps. Ça va durer longtemps, ça.
Qui vocation, je ne peux pas vous dire une date limite, malheureusement, parce qu'on fait avec l'épidémie. Mais ça durera le temps nécessaire, parce que, si vous voulez, tout ce qu'on dit là sur la réouverture...
Mais là, on parle en termes de mois, qu'on comprenne bien.
Je pense, je n'ai pas la réponse, hein, pour être tout à fait honnête, mais je pense que c'est au moins jusqu'à la fin de l'été. Bon. Que certains pays, en tout cas, feront l'objet de mesures de quarantaine restrictives. Mais on a les deux logiques. On rouvre chez nous, d'abord, cette vie sociale dont on a tant besoin. On va rouvrir progressivement à partir de début juin à l'égard de certains pays européens ou au-delà qui sont dans une bonne situation sanitaire. Et puis pour les pays qui ne sont pas dans une bonne situation sanitaire, là, on sera plus dur. Et cette liste, on va la rendre européenne, d'ailleurs, dans un certain nombre, dans quelques jours, pour qu'on ait la vigilance avec les pays qui sont dits rouges, à forte circulation du variant, et une ouverture progressive, mesurée, avec les pays qui ont une bonne situation sanitaire.
Et alors justement, Clément Beaune, mercredi, la Commission européenne a demandé une coordination de tous les États européens pour restreindre encore les arrivées depuis l'Inde. C'était mercredi, on est dimanche, on en est où de cette procédure d'urgence ?
Alors d'abord, c'est nous, la France, qui avons demandé cette coordination européenne, qui effectivement fait défaut, parce que ça n'existait pas au début de la crise aussi. Et donc, dire à 27 pays, vous avez la même liste, les mêmes mesures face aux variants, objectivement, ça n'est pas évident.
Parce qu'objectivement, si on arrive dans un pays d'Europe, on peut à un moment donné arriver en France. Donc si tout le monde ne le fait pas en même temps, c'est compliqué.
On en a besoin aujourd'hui, même quand vous circulez au sein de l'Europe, vous avez, c'est vérifié sérieusement, vous pouvez le voir aux aéroports, il y a un test PCR négatif qui est systématiquement vérifié, même pour les voyages au sein de l'Europe. Mais vous avez raison, on a besoin, pour être sûr sur le plan sanitaire, d'une liste européenne coordonnée. Nous l'avons demandé, et j'espère, d'ici la fin de la semaine qui vient, que nous aurons ce qu'on appelle un mécanisme d'urgence, c'est-à-dire dès qu'un pays dans le monde, on a l'Inde aujourd'hui, ou le Brésil, ou d'autres, fait l'objet d'une surveillance sanitaire renforcée, forte circulation du virus, chiffre très dégradé, on le met sur la liste rouge, commune au niveau européen, et dans les 48 heures, c'est ça le mécanisme qu'on a obtenu, tous les États européens doivent appliquer les mêmes restrictions, type quarantaine renforcée, fermeture des frontières.
On va marquer une petite pause, on se retrouve dans un instant.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Johan Usaï, Aurélie Herbemont.
Nous sommes toujours avec Clément Beaune, chargé des affaires européennes au gouvernement. On va se pencher sur le pass sanitaire avec Cécile Cornudet.
Oui, le pass sanitaire se met en place cet été à l'échelle européenne, mais ça reste encore un peu flou. Alors, on voudrait que vous nous en disiez plus. Ce sera quand ? Ce sera quoi exactement ce pass sanitaire ? Et dans quel lieu ce sera exigé en France notamment ?
Alors, il y a deux débats un peu distincts. D'abord, ce qu'on fait maintenant au niveau national, il y a eu un vote cette semaine, il y aura...
On va faire la France d'abord, du coup.
Oui, oui, exactement. Alors, voilà. Je fais la France parce que c'est ce qui commence le plus tôt. Il y aura un pass sanitaire dans certains cas, et certains cas seulement. J'insiste sur plusieurs éléments. D'abord, c'est un pass sanitaire et pas un pass vaccinal. C'est très important parce qu'il y a encore parfois
ça veut dire
du fantasme ou de la confusion.
Vaccin PCR.
Ou test. Pour raffiner un peu, test négatif. Si vous ne pouvez pas encore être vacciné ou si vous n'avez pas fait votre deuxième dose de vaccin, ou un test positif un peu plus ancien pour montrer que vous avez eu la Covid et que vous êtes donc protégé pendant quelques semaines.
Et le négatif, il devra être en
moins de 48 heures.
Donc toutes les 48
heures en France.
Non, parce que ça, c'est l'autre point très important. Ce n'est pas un pass qui va bloquer ou ouvrir votre vie quotidienne. On ne veut pas de cette société-là où vous auriez à biper pour aller au restaurant ou prendre votre café ou votre jus d'orange le matin, retrouver des amis. C'est un choix, je crois, de société. Ce n'est pas celui que nous faisons. Quelques pays européens ont cette approche. Ce n'est pas la nôtre. Et c'est très clair. Il y a eu ce débat au Parlement. Il y a un encadrement du pass sanitaire. Il sera utilisé en France à partir du 9 juin, dans la deuxième phase de réouverture, pour des événements qui ne sont pas du quotidien, c'est-à-dire des grands rassemblements,
concerts,
festivals,
plus de 1000
concerts,
personnes, c'est ça la jauge.
Exactement, alors festivals, concerts, en gros des événements sportifs et culturels avec un public important, plus de 1000 personnes, et dans la limite de toute façon d'une jauge, quoi qu'il arrive, qui est à ce stade de 5000 personnes pour ces grands rassemblements. Donc ce n'est pas votre sésame du quotidien, c'est très important je crois de le préciser.
Et ce passe-là aussi précisément a vocation à durer très longtemps on imagine.
Écoutez, franchement personne ne le sait aujourd'hui, mais c'est un outil de plus pour trouver une réouverture en restant dans la protection sanitaire dont nous avons besoin. Mais pas pour le quotidien. Et la réouverture qui commence ce mercredi, je l'ai dit, c'est parce qu'on a tous fait des efforts. Et donc, d'une certaine façon, on doit tous être récompensés par nos efforts. Et ensuite, au niveau européen.
Voilà, il y a la partie européenne maintenant pour voyager.
Qui n'est pas d'ailleurs un deuxième outil. Hein. Ce sera harmonisé. C'est l'intérêt de ce cadre européen. Donc, votre code que vous aurez sur un bout de papier ou sur votre téléphone, parce que vous avez fait un test ou parce que vous êtes vacciné, ce sera le même code pour aller à un festival ou à un concert en France, par exemple, et pour voyager en Europe. Pour quand est-ce qu'on pourra voyager en Europe ? Ce sera à partir du mois de juin. Le pass européen, il sera disponible fin juin, deuxième quinzaine de juin, j'espère le plus tôt possible, mais autour du 20 juin. Et à partir de ce moment-là, là aussi, il faut être précis, c'est un outil de réouverture, pas de fermeture, de réouverture. Aujourd'hui, on en disait un mot, quand vous voulez aller dans un autre pays européen, vous devez montrer un test PCR négatif.
Avec le pass, il n'y en aura plus besoin ?
Alors, avec le pass, vous aurez, pour avoir ce code qui vous permet d'accéder à un autre pays européen, vous aurez soit le test PCR négatif comme aujourd'hui, soit, c'est une chance supplémentaire, le vaccin. Et ce qui est très important, c'est qu'il sera harmonisé et donc vous aurez le même code pour aller de Paris à Athènes, de Berlin à Madrid, qui sera reconnu par les autorités de sécurité et de santé des différents pays européens. C'est l'intérêt de ce cadre européen.
Pour que ce soit bien clair, ce sera absolument obligatoire. On aura besoin de ce pass pour voyager en Europe.
Pour être précis, obligatoire dans le sens où vous aurez besoin de télécharger cette application, etc. Non, il y aura toujours une alternative. Mais soyons clairs, la France, comme l'immense majorité des pays européens aujourd'hui, exige tous un test PCR pour rentrer sur le territoire. Et donc le pass sanitaire, ce n'est pas une obligation de plus. Il y aura certainement toujours l'exigence d'un test PCR ou d'un vaccin. Donc c'est une chance supplémentaire de voyager et surtout c'est harmonisé parce que pour ceux qui ont voyagé ces derniers mois, vous avez vu que parfois ce n'était pas les mêmes règles.
Aucun pays ne pourra mettre de quarantaine par exemple au sein de l'Union européenne.
Alors ça c'est un point qui est encore en débat.
Et oui.
L'idée, parce que le texte législatif européen est encore en discussion, ce que je souhaite c'est que ce soit le pass sanitaire point barre.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de mesures supplémentaires parce que ce pass sanitaire européen, il est déjà protecteur. C'est la garantie que vous avez un test négatif ou que vous êtes vacciné, donc on voyage dans des conditions sûres pour le pays d'accueil. Et il y a quelques pays qui n'ont pas encore complètement arrêté leur position, mais j'espère qu'on pourra se débarrasser des quarantaines pour voyager cet été en Europe.
Et dans la catégorie des divergences d'approche entre différents pays européens, on a par exemple des tests PCR qui, en France, on peut y aller le faire gratuitement. Ce n'est pas le cas, je pense, à des pays comme l'Espagne ou peut-être certains de nos auditeurs voudraient aller en vacances. Si jamais à un moment il y a besoin de faire un test, est-ce que les touristes devront les payer, doivent prévoir un budget test PCR sur place? Ça peut monter jusqu'à 120 euros en Espagne. Est-ce qu'il faudra ou est-ce que vous allez réussir à harmoniser au moins au niveau européen les tests PCR? Un tarif bloqué, peut-être moins exorbitant.
Alors d'abord, vous avez raison de rappeler, en France, c'est gratuit. On est le seul pays européen.
Au moment où on le fait, quelqu'un finira par payer
la
sécurité
sociale.
Mais on ne le paye pas quand on va le faire.
Chaque individu ne le paye pas. C'est un effort collectif et c'est quand même pas rien. Parce que vous avez raison, ça dépasse même parfois 150 euros dans certains cas. C'est peut être très coûteux. Donc en France, on a des tests disponibles et gratuits. Bon, on ne peut pas payer pour tous les autres pays européens, si je puis dire. Mais il y a une discussion qui est en cours au niveau européen.
Et les pays européens, l'Espagne, ne veulent pas forcément payer pour des touristes qui ont les moyens de venir en vacances en Espagne,
mais
par exemple.
Ce que, pour être très clair, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que le touriste français qui ira en Espagne, on va lui payer son test. Bon, je crois que là, ce serait quand même un effort pour la sécurité sociale qui ne serait pas tout à fait justifié. Et voyons la chance qu'on a d'être en France avec des tests gratuits. Le Parlement européen, pour être précis, dans cette discussion qui est en cours sur le pass sanitaire, demande que les tests deviennent gratuits partout en Europe. On ne peut que le soutenir puisque nous le faisons. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui si l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, qui font toutes payer les tests, l'accepteront et le feront dans les semaines qui viennent.
Mais ça pourrait être le cas avant l'été ?
C'est un débat qui existe et ça pourrait être le cas d'avoir au moins peut-être des tarifs harmonisés ou rapprochés. Mais aujourd'hui, la France est un des seuls pays, et le seul depuis le début, qui fait le test gratuit. Et je ne sais pas encore ce que feront les autres.
Les touristes étrangers qui viendront en France pourront faire un test PCR gratuit quand ils repartiront chez eux?
Oui, d'abord c'est un élément aussi effectivement d'attractivité, mais touristique, parce qu'on a besoin, on a envie, dans des bonnes conditions sanitaires, de rester la première destination touristique européenne et mondiale. C'est un enjeu économique pour nous, mais ça montre bien l'effort que nous faisons.
Et justement, pour les touristes qui vont venir en France,
oui.
Est-ce que ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin chinois ou le vaccin russe, il y en a même en Europe, en Hongrie notamment, est-ce que ce sera les mêmes règles en termes de passe sanitaire ?
Alors, il y a deux éléments sur lesquels je crois qu'il y a beaucoup de questions et c'est très important, vous avez raison. Quel vaccin ? Ce sera les vaccins autorisés, ce seront les vaccins autorisés par l'Agence européenne des médicaments.
Donc, ni chinois ni
russe. Donc, ni chinois ni russe.
À ce stade, ils sont sous examen de l'Agence européenne, mais à ce stade, en effet, ni le vaccin russe ni le vaccin chinois ne sont validés par les autorités sanitaires européennes. Un pays peut dire, par exemple la Hongrie, qui utilise le vaccin chinois, moi, je veux bien que quelqu'un rentre chez moi avec le vaccin chinois. Mais à ce moment-là, on est en train d'en discuter, il faut être sérieux, parce que si nous, on a un doute sur la fiabilité du vaccin chinois, on ne va pas accepter que les gens se promènent partout en Europe. Donc, on va essayer d'avoir une liste harmonisée. Mais notre point de vue, c'est que ce doit être les vaccins autorisés, on voit bien l'intérêt de cette coordination européenne, par l'agence commune européenne, point, barre, là aussi, pour être très sérieux. Il y a un dernier point, je veux quand même le dire, parce que je crois que ça suscite beaucoup de questions et d'inquiétudes, c'est la protection des données. Là aussi, hein, le pass sanitaire qui sera scanné pour rentrer dans une salle de concert ou pour voyager en Europe dans les semaines qui viennent, il ne dira pas votre situation médicale détaillée. Ce sera vert ou rouge. Si vous avez un test ou si vous êtes vacciné, c'est vert. Sinon, c'est rouge. Et ça ne donne que votre nom et votre prénom. Pas davantage. Cela a été vérifié par la CNIL, l'autorité qui vérifie la protection des données.
On a bien fait le tour du pass sanitaire. J'espère que c'est un peu plus clair parce que jusqu'ici, c'était quand même encore un petit peu nébuleux. On va marquer une pause et puis on se retrouve dans un instant.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Johan Usaï, Aurélie Herbemont.
Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, est toujours avec nous. Alors Clément Beaune, hier dans la presse écrite, on a vu quelque chose d'assez rare, des encarts publicitaires de l'Union européenne pour le plan de relance à 750 milliards d'euros. Faisons du rêve européen une réalité. Mais les fonds vont arriver quand ? Ça fait plus d'un an qu'on parle de ce plan de relance et on n'a toujours pas vu le premier euro.
Ils vont arriver cet été. Je veux expliquer pourquoi, parce qu'effectivement, on peut se dire on est allé très vite au début, il ne faut pas l'oublier.
Et puis...
Bah, c'est quand même important, n'oublions pas cet élément. Il y a un an exactement, sur initiative franco-allemande du président de la République et de la chancelière Merkel, on a dit il faut un plan de relance européen, et pas juste un plan de relance européen. Une dette commune, ça paraît très technique, mais ça veut dire de la solidarité européenne.
Ce qui a été un objectif à atteindre, facile.
Ce qui a été très dur, et c'est la première fois qu'on le fait, et je crois qu'il faut le dire, parce qu'on a complètement raté la gestion de la crise précédente, il y a 10 ans, quand il y avait une crise financière
mondiale, de 2008.
On n'a pas su trouver cette solidarité européenne. Là, on l'a fait en quelques semaines. Ça a été acté l'été dernier. Après, il y a un temps démocratique européen. Je veux l'expliquer, parce que parfois, ça paraît un peu confus. Mais il faut dire la raison. Il y a un débat avec le Parlement européen que les Français ont contribué à élire. C'est normal aussi. Quand on parle de 750 milliards d'euros sur 3 ans, c'est pas rien. Et puis ensuite, il y a un temps démocratique qui est celui de nos parlements nationaux. Il y a 27 pays, en France, l'Assemblée nationale, le Sénat, ont voté sur le financement de ce plan de relance européen.
Nous, on est prêts, effectivement.
Nous, on est prêts depuis début février. On a été parmi les premiers, et tant mieux. Mais il y a encore quelques pays dans lesquels ça a été un peu plus long, un peu plus compliqué. D'habitude, on met, pour un budget européen, plus de 2 ans pour faire ce processus de vote dans chaque parlement. Là, on va mettre sans doute 5-6 mois, j'espère, pour être très concret, que ce sera fini au mois de juin et qu'on pourra commencer à l'été à avoir les premiers financements européens. C'est très long.
À l'été, début, parce que Bruno Le Maire parlait plutôt du mois de septembre,
oui,
peut-être ces derniers jours.
Écoutez, au mois de septembre, au plus tard, mais moi je ne renonce pas, on se bat avec Bruno Le Maire pour que ce soit avant cela, parce que vous avez raison, chaque jour, chaque semaine compte pour avoir cet argent de la relance européenne. Je veux dire quand même une chose importante pour ceux qui s'impatientent, et ils ont raison, moi aussi, c'est que l'argent européen, un peu plus de 40 milliards d'euros qui va arriver en France, il est déjà utile, il est déjà là d'une certaine façon, parce qu'on a un plan de relance à 100 milliards d'euros qui, lui, a commencé en septembre dernier, il y a plus de 6 mois. Il décaisse plus de 30 milliards d'euros déjà de projets engagés. Et si on n'avait pas la certitude d'avoir les 40 milliards européens, on n'aurait pas pu faire un plan de relance de cette ambition. Donc, c'est déjà utile cet argent européen. Ça ne justifie pas la lenteur. Parfois, allons-y. Mais il ne faut pas cacher les choses. L'argent européen, il est déjà utile et il aide déjà notre relance française.
Alors, il y a la lenteur européenne, mais aussi les montants. 750 milliards, c'est beaucoup, mais c'est faible par rapport aux 1900 milliards de dollars américains. Est-ce que, comme le président, vous pensez qu'il faut réfléchir à une deuxième étape, à un deuxième plan de relance, peut-être plus ciblé sur les questions technologiques ?
Oui, mais là aussi, je veux, sans être trop long, dire quand même un mot de comparaison avec les États-Unis, puisqu'on est dans une forme de Bidenmania, comme on l'appelle parfois.
Ça vous agace un peu ?
Non, ce n'est pas une question d'agacement, c'est une question de rétablissement des faits. Les États-Unis ont annoncé plusieurs tranches, les milliards vols, de quasiment 2 000 milliards d'euros à chaque fois. Il y a plusieurs choses différentes. Il y a un plan social Il faut dire ce qui est, c'est en Europe qu'on a été le plus protecteur sur le plan social.
Oui, les États-Unis n'ont pas les mêmes amortisseurs sociaux qu'on a pu avoir, notamment en France.
On a parlé de la réouverture. Il valait mieux être restaurateur en France ou en Allemagne qu'aux États-Unis. Tant mieux, c'est notre modèle social. On a une protection très forte. Les États-Unis ont rattrapé cela par des montants qui font forte impression, mais qui ne sont qu'un rattrapage social. Et puis, il y a l'investissement. Et là, les Américains, c'est vrai, ont annoncé, là aussi, à peu près 2000 milliards de dollars, peu importe les très grands chiffres, je crois que ça ne parle pas beaucoup, mais beaucoup d'argent sur 10 ans d'investissement, parfois de rattrapage aussi. Hein, Joe Biden l'a dit lui-même, il est en retard sur les infrastructures
sur ce point-là,
publiques aux États-Unis.
Il n'y a pas un risque que l'Europe prenne un retard considérable.
Si, il y a un risque, bien sûr. Je le dis d'abord, il y a du rattrapage d'infrastructures publiques, etc., des États-Unis, qui le font moins que nous. Mais oui, il y a un risque que l'Europe soit en retard, ça c'est clair, sur des technologies d'avenir en matière numérique, en matière écologique, sur les microprocesseurs, les semi-conducteurs, des choses qui feront l'industrie de demain. Et là-dessus, je ne veux pas qu'on loupe cette accélération américaine. Il n'y a aucune raison qu'on soit lent. On a parlé parfois de nos lenteurs politiques, parfois bureaucratiques. Il faut qu'on soit à la hauteur. Et oui, il faut un plan d'investissement européen qui complétera notre plan de relance. Probablement que c'est un débat qu'on devra trancher d'ici le début de l'année 2022, probablement sous présidence française de l'Union européenne, parce qu'il faut que l'Europe soit au rendez-vous face aux Chinois, face aux Américains, des technologies de demain.
On n'a pas encore les 750 milliards, que c'est déjà finalement une façon d'être en retard par rapport à la reprise en Chine, aux États-Unis.
Non, attendez, d'abord faisons la relance. On l'a dit, Bruno Le Maire l'a dit, l'urgence c'est d'avoir ces 750 milliards d'euros sonnants et trébuchants qui arrivent dans nos régions, dans nos économies. Et ce que je vous dis, c'est pour les prochaines années, anticipons. L'Europe a parfois eu un défaut de vitesse et d'anticipation. Les Américains ont lancé un plan d'investissement pour 2030, entre maintenant et 2030. Ouvrons ce débat au niveau européen, ça prendra sans doute, on parle de centaines de milliards là aussi, hein, ça prendra sans doute quelques mois à discuter, mais faisons-le maintenant, justement parce qu'on sait que ça prend du temps, et c'est un débat qu'il faudra ouvrir, je pense, d'ici la fin de l'année.
Alors Clément Beaune, justement, vous disiez, la France va présider l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022, ça va être donc pendant 6 mois la France présidente. Emmanuel Macron veut en profiter pour porter quel type de dossier pendant ces 6 mois?
Cela d'abord, c'est-à-dire une Europe qui défend son modèle social et qui le renforce. Plus d'investissements, ne faisons pas les erreurs là aussi, qu'on avait fait il y a une dizaine d'années après la crise, hein, après la crise grecque, on avait tout de suite essayé de réduire très très vite nos déficits, on avait été obsédé par l'idée de baisser les dettes et on n'avait pas investi. Et on a pris du retard justement sur les Américains, sur les Chinois pendant 10 ans. Ne faisons pas cette même erreur. Et puis il y a un modèle européen qui est social. Il y a eu un sommet social il y a quelques jours.
À Porto.
Nous porterons aussi un certain nombre de sujets très concrets sur le plan social pendant notre présidence. Un salaire minimum partout en Europe.
Pas forcément le même dans tous les pays.
Non, parce que nous avons un salaire minimum en France qui est plus élevé que la moyenne européenne. Il ne s'agit certainement pas de le baisser, évidemment. Mais il y a des pays européens qui n'en ont pas. Ou il y a des pays européens qui ont un salaire de 300 à 400 euros par mois. On ne peut pas vivre avec ça. Donc un salaire minimum décent dans toute l'Europe, c'est un élément du modèle social européen et ça évite le dumping social.
Mais il y en aura plusieurs différents. Parce que, par exemple, si je prends la Bulgarie, c'est peut-être compliqué d'avoir le même salaire minimum qu'en France.
Il y en aura plusieurs différents, mais il y aura des principes communs. D'abord, avoir un salaire minimum partout et qu'il ait un minimum en termes de pouvoir d'achat. Et puis, par exemple, le détachement des travailleurs, qui avait fait tant de mal. On s'en souvient dans la campagne présidentielle précédente. On en parle moins aujourd'hui parce qu'on l'a déjà réformé. Et on ira plus loin pour éviter la fraude au travail détaché et le dumping social.
Mais quand on voit la bureaucratie, d'abord, la lenteur qu'on vient d'évoquer au sein de l'Union européenne, on a du mal à croire quand même qu'Emmanuel Macron va pouvoir imposer ça en si peu de temps, même si vous travaillez déjà sur cette présidence. Mais sincèrement, ça paraît difficilement envisageable, non ?
Mais nous n'avons pas de baguette magique, mais nous avons une volonté politique. On ne va pas faire tout ça en 6 mois. Mais
c'est la volonté, ça va suffire en 6 mois ?
Non, parce que la volonté, on l'a assortie d'un engagement et d'un combat depuis 4 ans. Le travail détaché, on nous disait que c'était impossible. On a fait une première réforme du travail détaché. On ira plus loin. On nous expliquait que c'était impossible de faire le moindre pas en avant en matière d'Europe de la défense. On a un certain nombre de choses. On a des forces spéciales européennes qui sont engagées maintenant au Sahel. Il faut bien sûr aller plus loin. Mais on nous disait que c'était impossible, qu'on n'y arriverait jamais. On l'a fait.
C'est symbolique.
C'est pas symbolique. Ça sauve des vies. La solidarité européenne sur le vaccin, on la critique. Moi, je la défends. Parce que qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si des pays européens n'avaient pas du tout d'accès au vaccin? On aurait des mini-Brésil ou des mini-Inde partout en Europe, avec des variants, et ce serait très mauvais pour la situation sanitaire française. On a bien fait de le faire ensemble. Tout ça, ça paraissait impossible. La dette commune et la relance européenne, oui, c'est trop lent. Mais on l'a fait, et on aura cet argent, et il est déjà partiellement là. Donc, il ne s'agit pas seulement de la présidence française et de 6 mois de travail. Il s'agit de 4 ans pendant lesquels on a bouleverser, je le dis, et transformer le logiciel européen vers moins de naïveté et des gestes concrets, défense, sociale, relance, contre la Chine et les États-Unis, même parfois, moins de naïveté. Et tout ça, on l'amplifiera. Cette présidence, elle doit être un accélérateur d'Europe.
Il y a un mot que vous ne prononcez pas, c'est le mot immigration. Or, depuis l'attentat de Rambouillet, il est revenu en France au premier plan du débat politique. Pourquoi ? Et est-ce qu'il ne faut pas agir plus fort ? Par exemple, Valérie Pécresse, là, propose qu'il y ait des points d'asile, que l'accueil de l'asile se fasse aux frontières. Est-ce que ça, c'est une piste intéressante ?
Mais oui, ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on propose. Et il y a un travail qui sera aussi fait sous présidence française sur la réforme de Schengen, que le président a évoqué il y a quelques semaines au Pertus, après le terrible attentat de Nice.
Qui a déjà été annoncé 20 fois.
Oui, 20 fois. Pardon, parce que je vais vous dire des choses très précises. D'abord, aujourd'hui, on n'a aucun pilotage. C'est-à-dire que les États membres de Schengen, qui ne sont pas exactement ceux de l'Union européenne, ils ne se réunissent jamais, ils ne décident jamais ensemble de mesures de protection des frontières. On le fera sous présidence française. On doit réformer les règles de Schengen, par exemple, pour qu'un pays qui n'est pas sérieux sur le contrôle des frontières, aujourd'hui c'est évalué, mais on n'en tire aucune conséquence, puisse être sanctionné ou pénalisé pour ne plus être dans l'espace de libre échange.
Ils demandent à être aidés.
Quel pays précisément ?
On a vu par exemple, parfois c'est une défaillance matérielle, technique, qu'en Grèce il y a eu des difficultés, même des pays qui se targuent de lutter contre l'immigration, à l'est de l'Europe, je pense à la Hongrie par exemple, on n'a pas
ça
toujours été.
Ça veut dire qu'il faudrait les sanctionner ?
Ça veut dire sanctionner, ça dépend ce qu'on entend par là, mais ça veut dire que oui, on ne peut pas être dans l'espace de libre circulation et ne pas remplir ses obligations de contrôle des frontières. Ça doit être vérifié, je crois, par l'Europe, exactement comme on le fait sur le plan budgétaire. On vérifie votre déficit. Pourquoi on ne vérifierait pas le contrôle que vous faites aux frontières ? C'est une des pistes qu'a ouvert le président au Pertus. Ça, on veut le faire avancer sous présidence française. Et pour la proposition de Valérie Pécresse, cela, c'est sur la table européenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle techniquement l'asile à la frontière. On vérifie votre dossier d'asile quand vous arrivez sur le territoire européen, par exemple en Grèce. Et on est en train d'aider, avec notre agence européenne Frontex, la Grèce à accélérer ses procédures à sa frontière. Il faut aller plus loin, et vous savez pourquoi ça a bloqué les réformes de l'asile au niveau européen. Ce n'est pas Yaka Faucon. C'est parce qu'il y a des pays, notamment les pays de l'Est, la Hongrie, la Pologne, qui ne veulent pas de solidarité européenne. Et nous, on dit qu'il faut les deux, vérifier de manière responsable l'asile à la frontière. Et puis, quand il y a des gens qui ont le droit, s'il y a des gens qui ont le droit de venir en Europe parce qu'ils sont réfugiés, parce qu'ils ont besoin d'être protégés, parce que c'est la guerre dans leur pays, ceux-là, on doit les accueillir partout en Europe, pas seulement en Italie ou en France.
Vous voulez imposer les quotas, c'est ce que vous dites.
Non, je pense que les quotas, c'est un mauvais débat, parce que ça ne marchera jamais. En revanche, un pays qui ne participe pas à la solidarité européenne ne peut participer autrement, par exemple financièrement, parce qu'aujourd'hui, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne qui font tout l'effort. Et il n'y a pas de raison, moi je suis pour une Europe qui soit juste et pas naïve, que nous fassions un effort de solidarité nécessaire, mais qui soit disproportionné par rapport à des pays, souvent d'ailleurs les amis de ceux qui nous combattent sur l'immigration, de Mme Le Pen, en Hongrie, en Pologne, qui ne font pas d'efforts.
Pour vous, la France accueille trop ?
Proportionnellement aux autres pays européens, oui, bien sûr. Nous étions, avant la crise, le premier pays de demande d'asile en Europe. On doit en prendre notre part, mais d'autres pays européens doivent le faire aussi.
Clément Beaune, le président de la République, voudra sans doute profiter effectivement de cette présidence française pour faire avancer des dossiers, notamment sur l'immigration, sachant qu'on sera en plus en pleine campagne présidentielle. Comment est-ce que ça va s'articuler ? Les voisins européens ne voudront pas forcément se plier à l'agenda d'un probable candidat à sa réélection.
Mais une présidence, c'est d'abord un honneur et une responsabilité pour toute la France, pas pour le président de la République ou pour le ministre que je suis. D'ailleurs, moi, j'associe depuis le mois de janvier l'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée nationale, au Sénat. Ce n'est pas une présidence sectaire, c'est une présidence ouverte et transpartisane. Il y aura des débats électoraux, à l'évidence, mais nous travaillerons avec tout le monde.
Ça risque de cogner un petit peu.
Et l'agenda que nous défendons, nous ne le sortons pas du chapeau le 1er janvier prochain. Les réformes migratoires, les réformes sociales, l'investissement en Europe, le droit d'auteur en matière culturelle, les universités européennes qui permettent aux jeunes de partir et de se former mieux en Europe, tout ça, on le défend depuis le discours de la Sorbonne du président, on l'accélérera pendant la présidence, donc on est transparent, ouvert et pas sectaire sur cette présidence, évidemment.
On marque une dernière pause et on se retrouve tout de suite avec Clément Beaune.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Johan Usaï, Aurélie Herbemont.
Nous sommes toujours avec Clément Beaune et on va parler des élections régionales qui ont lieu dans un petit peu plus d'un mois. Et notamment, on va parler de PACA, où des marcheurs seront dès le premier tour sur la liste du président sortant LR, Renaud Muselier.
Pour la première fois dans l'histoire de la région, 9 tendances politiques seront représentées sur notre liste. Sur la liste des 135, on retrouve 15 personnes de la majorité présidentielle, dont 4 élus sortant du MoDem, les autres étant tous des élus locaux.
Yoann Uzaï.
Conséquence de tout cela, certains membres des Républicains, les électeurs aussi, ne veulent plus soutenir Renaud Muselier. Et puis il y a un sondage, plusieurs sondages même, qui donnent le Rassemblement National gagnant en PACA au second tour. La morale de tout ça, c'est que depuis que le Premier ministre s'en est mêlé, finalement, le gouvernement a été un bon agent électoral du Rassemblement National.
Non. D'abord, malheureusement, et la campagne d'ailleurs n'est pas finie, mais il y avait des sondages qui étaient favorable pour M. Mariani avant.
Qui ne le plaçait jamais en tête.
Il y a un moment, je crois, de confusion, mais pardon, ça n'est pas nous qui avons créé l'ambiguïté idéologique. On parlait de méthode, mais parlons du fond, chez les Républicains. Ce n'est pas nous qui avons fait qu'il y a certains qui sont dans le camp républicain, justement, clairement, je pense à M. Estrosi, M. Falco, ou d'autres qui sont restés chez les Républicains, heureusement, et un camp de l'ambiguïté, voire de la honte, qui préfère résolument, parfois c'est exprimé explicitement, le Rassemblement National au Parti Républicain. Donc, je crois
que
c'est...
Vous pensez à qui ? Bah, explicitement
Vous le voyez au niveau national et vous le voyez dans certaines régions. Quand, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, les Républicains, pour des raisons sans doute électorales, donnent à un représentant de Debout la France, M. Dupont-Aignan, la tête de liste départementale. Moi, je considère que c'est honteux et que c'est une quasi-alliance avec le Rassemblement National. Je ne l'invente pas, M. Dupont-Aignan, il ne l'a pas caché. Il y a 4 ans, quand la question s'est posée, ce n'était pas rien. Il a dit qu'il était prêt à être Premier ministre de Marine Le Pen. Mmh. Bon, cette ambiguïté-là, ce n'est pas nous qui l'avons créée. Qu'il y ait un besoin d'accord entre les sensibilités de la majorité présidentielle, En Marche en particulier, et des gens de bonne volonté, des Républicains, je crois que c'est au contraire une nécessité démocratique absolue pour combattre le Rassemblement National, et moi je serai de ce combat.
Et parce que vous êtes aussi incapable dans la majorité de gagner des régions tout seul.
Alors d'abord, vous le verrez, mais...
Les sondages ne sont pas très encourageants.
Pardon, il y en a d'abord où les choses évoluent, je pense à Grand Est, je pense à la Bretagne, où les scores qui nous sont prêtés, je reste très prudent aussi, sont loin d'être mauvais, parfois même nous placent en tête. Donc soyons très prudents, on est combatifs, mais ne jouons pas l'élection avant qu'elle ait eu lieu. Et on a pris nos responsabilités. Dans cette région PACA, il y avait déjà un risque qu'elle bascule au Rassemblement National, ce qui serait catastrophique. On a été prêt, je crois que c'est quand même un acte de responsabilité, même de dignité, du côté de la majorité présidentielle, le Premier ministre lui-même l'a dit en tant que chef de la majorité, à faire alliance, à avoir une liste de rassemblements au premier tour, dès le premier tour, pour être plus fort et éviter un risque d'éparpillement et que le Front National soit trop fort. Bon. Et maintenant, on va mener ce combat électoral. On est à un mois des élections, ça commence maintenant. Mais je crois qu'on ne peut pas nous reprocher. On serait resté au premier tour, seul. On nous aurait dit, vous affaiblissez M. Muselier, vous éparpillez les voix du camp républicain, au sens large. Et là, on a essayé au contraire de le rassembler.
Mais certains républicains, vous
faites l'inverse dans les Hauts-de-France. Vous envoyez Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin pour affaiblir Xavier Bertrand avec le risque de faire élire le Front National.
D'abord, la règle, c'est qu'on est candidat au régional. Nous sommes force politique, un parti politique, même plusieurs partis politiques de la majorité présidentielle, on se présente dans chaque région, c'est normal. Il y a une région où le risque nous paraît aujourd'hui le plus sérieux, vous l'avez rappelé vous-même, c'est PACA, on prend nos responsabilités. Dans les Hauts-de-France, je crois que le risque n'est pas le même.
Il existe en tout cas.
Mais il existe partout, tant qu'on n'a pas mené la bataille.
Mais particulièrement dans
les Hauts-de-France. Mais on ne va pas arrêter le combat politique alors que notre ADN, c'est de lutter contre le Rassemblement National, plus qu'aucun autre parti. On nous dit même parfois qu'on cible trop le Front National ou le Rassemblement National.
Est-ce que vous dites qu'il faut prendre votre responsabilité?
Oui, mais on va pas se... Non, je le dis très clairement. On se présente.
Vous ne les prenez pas dans la région
Pardon,
des Hauts-de-France.
Non, parce que le risque n'est pas le même. Et nous nous battons. Et puis nous verrons, il y a un deuxième tour, comment ensuite nous agissons.
Mais Xavier Bertrand a déjà prévenu qu'il ne voudrait pas faire alliance avec vous au second tour.
Nous le verrons. Et
voulez le contraindre à une alliance, en fait, pour l'affaiblir en vue de 2022.
On veut se battre pour nos couleurs. C'est quand même légitime, et c'est ce qui est le plus transparent dans une démocratie. Et puis après, il y a un deuxième tour, on l'a toujours dit, on prendra nos responsabilités. J'espère que les autres le feront partout où nous serons, nous, en tête.
Vous prendrez nulle part le risque de voir élire une
nulle part
région.
Je souhaite qu'on ne prenne nulle part le risque de se faire battre et de donner des régions au Rassemblement National. Je le dis en plus, en tant que responsable politique et en tant que secrétaire d'État aux affaires européennes, l'Europe aide partout les régions. Moi, je ne veux pas que cet argent il soit géré n'importe comment par un parti que je ne considère pas comme républicain au sens profond du terme. Alors, et donc, on mène ce combat, nous-mêmes, et là où il y avait le plus grand risque, c'est quand même un acte, je crois, de courage et de clarté. Nous avons dit, à Renaud Muselier, on ne l'a pas fait derrière les rideaux. Le Premier ministre lui-même l'a dit. Dans la presse, on ne pouvait pas faire plus solennel et plus clair. Allons-y, essayons de faire un accord pour mener ensemble ce combat. On est prêt à le faire avec Renaud Muselier. C'est ce que nous faisons.
Alors, le Rassemblement national, vous le dites, est votre principal adversaire. Hier, c'est le numéro 2 du Rassemblement national qui s'est plaint, qui en a appelé au Premier ministre pour demander à Jean Castex qu'il demande de la retenue à ses ministres, puisque... On a entendu Olivia Grégoire ces jours-ci, qui est aussi secrétaire d'État au gouvernement, dire que Marine Le Pen était une ennemie à abattre. Le Rassemblement national trouve que c'est trop violent, que c'est hors du champ démocratique de respect entre adversaires.
Écoutez, c'est quand même, si ça n'était pas aussi grave, ce serait savoureux d'entendre le Rassemblement national, qui avait choisi plutôt une stratégie... de banalisation, d'assagissement, retomber dans la victimisation. Nous sommes les victimes du système, nous sommes les malheureux qui sommes attaqués par les autres. Tout ça est du théâtre, malheureux. Et moi, je le dis franchement, sans excès, mais avec la plus grande fermeté, oui, le Rassemblement national, le Front national, c'est pareil, c'est notre ennemi politique. Et je le combattrai de toutes mes forces, là où je peux, dès les élections régionales en soutenant nos candidats, et puis ensuite aux élections nationales. C'est un peu gros de faire croire que la violence ou la haine serait ailleurs qu'au Rassemblement national quand on voit les militants, les discours de division et de haine qui sont encore ceux du Rassemblement national, de certains militants présentés parfois comme rebigaleuses, mais qui sont en fait au cœur du parti. Franchement, on n'a aucune leçon à recevoir.
Marine Le Pen est raciste.
Écoutez, moi je ne sais pas, je ne cherche pas à la qualifier, je pense qu'elle profère un discours qui mène au racisme, qui est un discours de haine et qui est un discours de division, donc c'est un ferment de racisme, oui.
Le journal du dimanche ce matin dévoile le rapport de police qui accuse le Rassemblement national d'emploi fictif d'assistant parlementaire au Parlement européen pour un montant de 6 800 000 euros. Alors le Rassemblement national a multiplié les recours, ce qui fait qu'il n'y aura sans doute pas de procès avant la campagne présidentielle, vous le déplorez ?
Je déplore le fond de l'affaire. On va voir comment ça se termine, mais ce n'est pas complètement nouveau. Il y a des éléments accablants contre le Rassemblement national et le Front national avant, qui ont mis en place, semble-t-il, un système de financement.
Vos alliés du Modem sont un peu soupçonnés des mêmes choses.
Mais d'abord, il y a une procédure en cours, donc on verra ce que la justice en dit. Enfin, le Front national au Parlement européen, c'est un peu « prends l'oseille et tire-toi ». Ils ne sont pas présents. Ils demandent des suffrages aux Français. On parle de 6 millions d'euros, pardon, mais c'est l'argent des Français. C'est 6 millions d'euros, des contribuables européens, dont français. Bon. Et on peut détester l'Europe, c'est le cas du Rassemblement national. Il faut quand même être cohérent et honnête. On ne peut pas demander aux Français, après ça, des élus au Parlement européen, en faire une source de financement pour son parti et cracher dans la soupe.
Clément Beaune, ça fait 4 ans qu'Emmanuel Macron est entré à l'Élysée précisément aujourd'hui. Marine Le Pen a beaucoup progressé depuis 4 ans dans les sondages. Elle a gagné jusqu'à 12 points d'intention de vote au second tour de l'élection présidentielle. Vous qui êtes au gouvernement, vous avez le pouvoir. Est-ce que vous avez une part de responsabilité quand même dans le fait que le Rassemblement national ait beaucoup progressé depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée ?
Mais j'ai d'une part de responsabilité dans ce qui fait que certains, par révolte, par colère, par désespoir, vont vers le Rassemblement national.
Et c'est la preuve peut-être pour ces électeurs-là que vous n'avez pas réussi selon eux.
Pardon, mais c'est le combat. La dynamique du Front national, du Rassemblement national aujourd'hui, elle est très forte, malheureusement, depuis 30 ans. Et je vous le dis, il n'y aura pas de baguette magique, ce sera encore le combat d'une génération. D'abord, on nous l'a reproché, moi je l'assume.
C'est un échec pour vous.
Mais tant qu'il y aura le Rassemblement national aussi haut dans une démocratie, ce sera un échec collectif.
Là,
mais le combat n'est pas fini.
C'est vous
oui,
qui
mais bien
pouvoir.
Sûr, mais je l'assume. Ouais. Mais je vous dis comment, on ne va pas pleurer sur le lait renversé. C'est pas nouveau. Il faut savoir comment on combat le Rassemblement national. Je prends le sujet européen, par exemple, d'ailleurs. Le Rassemblement national nous disait, on va sortir de l'euro. C'était le discours de Marine Le Pen, j'ai rien inventé, il y a 4 ans. Maintenant, ils ont complètement changé. Parce qu'on a montré que leur vision était un échec. Et comme un virus, ils mutent. Ils s'adaptent. C'est le principe du populisme. Bon. Et donc, ce populisme-là, qu'incarne en France le Rassemblement national, mais malheureusement, vous le voyez partout en Europe, il va durer. Il va durer. Et nous mènerons ce combat qui est un combat difficile. Mais enfin, on ne peut pas nous expliquer qu'on n'a pas réformé le pays et qu'on n'a pas mené ce combat jour et nuit. Là où, on prenait l'exemple des Républicains, mais même où certains responsables socialistes nous disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils feraient au deuxième tour de l'élection présidentielle. La présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale a dit. Donc, moi, je veux bien prendre une part de responsabilité, mais on mène le combat de la transformation, du changement du pays, de l'Europe et de nommer le mal, qui est le populisme européen. Et on l'a vu, quand on le fait, on l'a vu aux élections européennes, on peut gagner du terrain et on peut faire reculer l'extrême droite. On le fera.
Merci Clément Beaune. On va devoir s'arrêter ici. Bon dimanche à tous.